Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1951, Pierre Dumayet, Étienne Laloux, Jean Chouquet et Pierre Sabag concoctaient pour l'amour de l'art un fantaisiste et charmant programme autour des sept péchés capitaux. Pas mortel après tout, plutôt des vices et de vagues défauts à y bien regarder. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse étaient évoqués à travers la lecture de la nouvelle de Marcel Aimé, La fosse aux péchés. Illustrés de chansons, de rencontres avec des personnes bien réelles comme Marcel Joindot et Lasserre, fictives ou légendaires comme Guillaume Tell, ce divertissant programme est aussi l'occasion d'entendre parmi d'autres les voix de Roland Dubillard, Germaine Montero, Marcel Herrand, Micheline Dax et Juliette Gréco.
Jacques Florent et Henri Soubéran vous présentent « Pour l'amour de l'art ». Aujourd'hui, les péchés capitaux, avec le concours de Pierre Dumayet, Étienne Laloux et Jean Chouquet. Dans une de ses nouvelles, Marcel Aimé propose à ses lecteurs cette leçon de morale. Si vous voulez vous garder des mauvaises tentations, ne haïssez pas le péché, mais familiarisez-vous avec le péril. Après avoir couru bien des aventures, telle est du moins la sage conclusion du héros de la fosse aux péchés, Ludovic Martin, professeur de pureté. Nous serons ce soir ses disciples. Nous le suivrons en enfer, au fond de la mer où gît le veau d'or. Et nous serons délivrés avec lui par un pasteur envoyé de Dieu qui vaincra tour à tour l'orgueil, l'envie, la paresse, la gourmandise, la luxure, l'avarice et la colère. Chacun d'eux sera décrit par la voix de Marcel Herrand. Musicalement, ils seront présentés par Pierre Dumayet et Raymond Gallois-Montbrun. Quant aux auteurs et aux artistes que nous chargerons de tous ces péchés, nous vous laisserons le soin de les découvrir. D'avance, nous nous excusons, puisque nous savons bien qu'ils ont toutes les vertus. L'orgueil, c'est le premier adversaire que propose Marcel Aimé à l'envoyé de Dieu dans sa nouvelle La fosse aux péchés.
Son corps avait la forme d'une commode Louis XV. Sa tête, qu'il portait très en arrière, se rattachait à son buste par une pompeuse en colure de cheval. C'était une tête boursouflée, apoplectique, au profil busqué, au front court, surmonté d'une paire de cornes tortillées, comme celle d'un mouflon, et pointant vers le ciel. Sa lèvre inférieure, proéminente, précédait l'autre d'un demi-pied, et l'un de ses yeux, gonflé et gélatineux, avait l'apparence d'un énorme monocle. Bipède, le monstre avait des cuisses osseuses, d'une remarquable maigreur, et les jambes, pareillement minces, étaient cachées par des coquillages en forme de leggings, aux mollets avantageux. Mais son anatomie était peut-être moins surprenante que la richesse et la variété des couleurs qui le paraient des pieds à la tête. Il avait le derrière empanaché d'un flot de tentacules multicolores où dominaient l'or et la pourpre. Ses jambes de pierre étaient d'un blanc laiteux, ses pieds et ses cuisses couleur mer de doigts. Il portait en sautoir, imprimé sur la peau, un grand cordon violet fileté de blanc et, sur son torse Louis XV, deux rangées de décorations qui étaient des excroissances naturelles aux coloris les plus chatoyants. Ses cornes étaient dorées, ses oreilles de veau d'un rouge éclatant. J'allais oublier de signaler que la nature l'avait doté d'une paire d'éperons à l'espagnol qui flambait derrière ses talons. Le poing sur la hanche, l'orgueil allait d'un pas lourd et important. Il tenait de la main droite une canne de tambour-major, si haute qu'elle l'obligeait à se hausser sur les pointes pour en atteindre la pomme. Nous le regardions avec un sentiment de dégoût et de nostalgie se pavaner devant nous. De son côté, il nous lorgnait à travers son monocle et de mépris, sa lippe s'allongeait. « Quel est le fils de Croquant qui prétend se battre avec moi » interrogea-t-il d'une voix grasse enrhumée de suffisance. « Où est-il, ce truand, ce morpignolard, que je lui casse les reins, que je lui mélange les boyaux avec la cervelle ?»« Je suis l'homme que vous cherchez, » déclara le pasteur. L'orgueil accorda un regard à la maigre silhouette du pasteur et partit d'un énorme éclat de rire. « Allons, dit-il, après cet accès de gaieté, je veux être bon prince. Baisez seulement mes fesses et je vous fais grâce de la vie. » Le pasteur ayant décliné la proposition, le diable remit une épée à chacun des adversaires, mais l'orgueil jeta la sienne et s'écria « Foin d'une épée ! Pour abattre si pauvre gibier, je n'ai besoin que d'un bâton. » Brandissant sa canne de tambour-major, il s'avança à la rencontre du pasteur qui prit ses dispositions de combat. On voyait bien que le pauvre saint homme n'avait jamais touché à une épée. L'avant-bras replié, le poing à l'épaule, il tenait son arme comme un poignard, sans souci de se garder à gauche, et il avait si piteuse allure que l'orgueil eut un sourire de dédain. « C'est trop d'un bâton, dit le monstre, en lâchant sa canne. Il me suffira de souffler sur ce pantin pour l'anéantir. » Quatre pas le séparaient alors de son adversaire. Il enfla d'abord sa poitrine, puis la tête renversée en arrière gonfla ses joues. Le pasteur, avec une candide assurance, porta un coup d'épée. Visant au ventre, il frappa à la gorge et l'orgueil tomba à la renverse. Le pasteur jugea prudent de lui couper la tête. Par l'ouverture béante, une colonne de sang s'éleva dans la mer et s'épanouit en parasol. À mesure que le sang s'écoulait, l'orgueil perdait ses brillantes couleurs. Son panache, ses décorations s'effaçaient. Bientôt, il n'y eut plus qu'un tas de chairs grises et flasques.
Quelques personnages célèbres ont commis des actes inexplicables, ainsi Guillaume Tell. Pourquoi a-t-il posé une pomme sur la tête de son fils alors qu'il savait qu'il allait vouloir la percer? Seuls, je crois, les péchés capitaux peuvent rendre compte de sa conduite. Enfin, monsieur Guillaume Tell, pourquoi? Pourquoi avez-vous mis cette pomme sur la tête de votre fils?
Il fallait bien la mettre quelque part.
Mais encore?
Ben, je ne sais pas.
Alors, vous êtes orgueilleux?
Non.
Avare?
Non.
Envieux?
Non.
Luxurieux?
Non.
Gourmand?
Oh non.
Coléreux?
Oh non.
Paresseux?
Pas tellement, non.
Et alors pourquoi avez-vous mis cette pomme sur la tête de votre fils?
Ben, écoutez, attendez, je vais réfléchir.
L'orgueil des hommes n'a plus de limites. Un savant anglais, le professeur Ashby, vient d'inventer une machine destinée à remplacer le cerveau humain. Pierre Sabag a assisté aux récentes démonstrations de ces machines réflexes.
Orgueil, peut-être. Monsieur Ashby, électronicien psychiatre anglais, a présenté son appareil, l'homéostat, sous le vocable de projet pour un cerveau. C'est la seule machine qui ait un but, l'équilibre. Parti du principe que nos plus grands soucis consistent à trouver l'équilibre, équilibre du budget, familial ou d'État, équilibre du corps humain que l'on appelle parfois santé, équilibre que l'artiste appelle harmonie, équilibre du mode de vie dans le milieu ambiant que l'on peut considérer comme faisant partie de l'instinct, équilibre commerciaux, sociaux, politiques, l'homéostat recherche l'équilibre. Quatre cubes, portant chacun une cuvette, dans laquelle flotte une palette animée par un électroaimant, recherche son propre équilibre. Mais cette recherche agit sur ses trois voisines, détruisant, contrecarrant ou appuyant les désirs de celles-ci. Le nombre des solutions de l'équilibre individuel, lié à l'équilibre collectif, devient alors faramineux, environ 400 000. Dans ces 400 000 solutions, l'homéostat en choisit une, la meilleure. Il la trouve en 2 minutes ou en 10 heures, mais il la trouve à coup sûr. Le temps de recherche dépend du hasard, de sa fatigue, de son humeur, ou plus exactement de la saturation de certains circuits, du nombre de changements de combinaison qu'elle devra effectuer selon les connexions de départ lors de la donnée du problème. Ainsi, madame, si vous avez de la cellulite, vous pourrez peut-être demain demander à l'homéostat, pour la perdre, de définir votre équilibre alimentaire, auquel vous ajouterez bien sûr différents facteurs. Votre âge, exact si possible, votre mode de vie, le but exact recherché, et puis vous y ajouterez la somme dont vous pouvez disposer pour le traitement. Mais, si vous voulez bien, quittons la fantaisie qui ne fait pas partie de la cybernétique, car d'autres machines existent. La machine à calcul électronique qui réalise en un laps de temps extraordinairement court des opérations mathématiques qui pour l'homme représentent un travail colossal, entaché de risques d'erreur considérables. Il y a également le canon de DCA poursuivant seul l'avion. Il est presque intelligent ce canon, car il finasse avec le pilote qui essaye de lui échapper. Réflexe humain contre réflexe électronique, je crois que c'est là un très beau sujet de thèse. Il existe également la machine à jouer aux échecs qui vous permettra peut-être demain de jouer en solitaire. Vous prenez les blancs, la machine prend les noirs, et à tous les coups vous serez perdant. Car implacable, la machine analysera toutes les solutions pour échapper à votre cheval et à votre fou. Et elle choisira la solution qui vous laissera mat. Rassurez-vous. Rassurez-vous, car si mes renseignements sont exacts, la machine n'est pas tout à fait au point. Ce qui revient à dire que vous avez encore quelques répits.
Monsieur Guillaume Tell, allez-vous enfin nous avouer pourquoi vous avez mis cette pomme sur la tête de monsieur votre fils?
Ben, il fallait bien la poser quelque part, n'est-ce pas?
Ne pouviez-vous pas la mettre ailleurs?
Si, mais en choisissant la tête d'un autre, j'eusse ôté à mon fils l'occasion de manifester un courage que d'ailleurs il tenait de moi. Mon fils, voyez-vous, c'était mon orgueil.
Doit y avoir autre chose.
Ben écoutez, je vais réfléchir encore.
Ça me rend malade de voir le chapeau qu'elle use. Moi, ça me rend malade quand elle va à l'église. La voiture de Léon, la maison de Gaston et la robe de Ninon, ça me rend malade. La voiture de Léon, la maison de Gaston et la robe de Ninon, ça me rend malade. De voir le chapeau qu'elle use, moi, ça me rend malade quand elle va à l'église. De voir son chapeau et la voiture de Léon, la maison de Gaston, la robe de Ninon, tout ça me rend malade.
L'envie sortit lentement de son antre obscur. Tout d'abord, on ne vit d'elle qu'une énorme tête en forme de casque, faite d'une substance dure et cornée. Entre la visière du casque et la mentonnière béait un trou noir au fond duquel brillaient deux yeux d'or vert. Dardé de ses secrètes profondeurs, le regard de l'envie semblait adhérer à l'objet auquel il s'arrêtait. Parfois, la visière du casque se rabattait silencieusement et éteignait l'éclat des phosphorescences jumelles. La bête avançait prudemment, la gueule au ras du sol, entre ses grosses mains écailleuses sur lesquelles s'appuyait l'avant-train. Ayant ainsi fait une dizaine de pas, elle se redressa d'un mouvement souple. Son corps était articulé au-dessous des épaules, de sorte que le buste maintenait sans effort apparent la position debout. Ce buste, qui avait forme humaine, était en partie protégé par des plaques de corne, et partout où elle apparaissait, la peau était couverte de pustules qui sécrétaient des humeurs jaunâtres. Le reste du corps, sur lequel la bête prenait son assiette, était d'un gros crocodile noir et ventru, se mouvant avec agilité sur 6 paires de pattes. Fiers de notre champion, nous faisions des vœux pour sa victoire, mais à voir les proportions de l'animal, la puissance de son poitrail et de ses bras, son aisance à se déplacer, il semblait impossible que le pasteur triomphât. Le début du combat ne fit que vérifier nos craintes. Et volant autour du pasteur avec une rapidité qui le déconcertait, l'envie se trouva plusieurs fois en situation de lui porter un coup mortel. Il ne dut son salut qu'à sa maladresse même, si invraisemblable que l'adversaire y flaira un piège et se réserva pour une occasion plus sûre. Cette occasion ne tarda guère à se présenter et l'envie était en bonne position de frapper par derrière lorsque la plus jeune des filles du pasteur, qui avait l'esprit aussi bien fait que la poitrine, s'écria « C'est moi la plus belle créature du monde !» Aussitôt, l'envie se tourna vers nous et ses yeux d'or vert flambèrent au fond du casque. « Il n'y a pas de créature plus belle que moi !» insista l'orgueilleuse. Dardant sur elle un regard chargé d'anxieuse envie, la bête oublia le combat et laissa le pasteur lui couper le cou tranquillement. Un liquide jaune et visqueux s'échappa de la blessure.
L'humilité de Marcel Jouandeau le désignerait tout aussi bien qu'un pasteur pour combattre le péché. Mais il a trop d'humour pour envier un tel rôle. Il préférerait peut-être laisser ce soin à son épouse Élise. Écoutez-le.
Le soir de l'entrée des Allemands à Paris, ma femme et sa femme de chambre, une charmante négresse, originaire de la Trinité nommée Gwendoline, et que nous appelions familièrement Gwen, sont allées au complice chez les pères dominicains. Au retour, « Eh bien, tu sais, me conte Élise, ils sont partis, comme tout le monde, n'en laissant qu'un seul. Mais ce qu'on n'imaginerait pas, c'est que pour garder leur maison, leur chapelle et le bon Dieu, ils aient choisi le plus simple, une sorte d'idiot de village. Sans doute ont-ils bien fait, si j'en juge d'après moi, qui ai horreur du chapelet. Pour la première fois, j'en ai suivi la récitation avec intérêt. C'est que le bon père, après chaque Ave Maria, s'interrompait pour nous raconter sa journée. Parfois sa vie, à mesure que les grains tournaient dans sa main et que les souvenirs lui montaient comme par bouffées au cerveau. Et si familièrement, si naturellement que c'était merveille. On ne se parle pas autrement à soi-même et à Dieu. Tiens, je vais te l'imiter. Commençons sur la première dizaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, mes chères sœurs. J'ai omis de vous dire dans mon exorde qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré un blessé de guerre mourant. Et avant de lui fermer les yeux, il m'a demandé ce que je voulais, qu'il était prêt à me le donner, pour me récompenser de l'avoir consolé, confessé, absous. Et comme je ne voulais rien, bien sûr, il a insisté. Je vois ce que c'est qui vous fera plaisir, mon père. C'est ma sacoche, prenez-la. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et mes chères sœurs, je me demandais ce que je pourrais bien faire d'une sacoche. Eh bien, voilà. Savez-vous à quoi elle me sert? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Elle me sert à porter le bon Dieu. Je l'avais mis dedans ce matin, par exemple. Et ni vu ni connu, lui sur mon dos. Je me suis promené au milieu des ennemis. J'allais, bien sûr, à pied, entrant ça et là chez mes malades. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous à l'heure de notre mort. Du côté du Luxembourg, je passe devant ma petite chambre d'étudiant. C'était, voyons, oh, il y a bien longtemps de cela, je pense, en 1910 que j'habitais. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de ma jeunesse. C'était sans doute les mêmes vitres à travers lesquelles me parvenait le jour. Les rideaux, les fleurs seules avaient changé. Mais comme déjà le cœur me manquait, les larmes coulant au rappel des premières amours, j'ai fait ma prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. En arrivant devant le bon marché, je rencontre un facteur qui faisait sa distribution. Je lui dis, mon brave, ainsi vous tournez toujours, comme si de rien n'était. Moi, toujours le bon Dieu sur mon dos, et lui sa boîte aux lettres en bandoulière. Mais le facteur n'était plus seulement le facteur parce que le Seigneur était sur mon dos. Et il m'a donné la main. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il a été, comme il est, comme il sera dans tous les siècles. Plus loin, un concierge fourbissait ses boutons de porte. Voilà qui est bien, lui dis-je, mon bon. Il faut que tout brille quand même, que tout soit net, et surtout l'âme. Il m'a répondu. Vous avez bien raison, mon père. Et j'ai ajouté, comme si de rien n'était. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. À ce moment, justement, entraient dans la chapelle deux soldats allemands. C'étaient probablement les premiers qu'ils faisaient. À cette vue, le père, le cœur du père, se hérisse. Mais vite, il reprend le pas à terre pour crier d'une voix impérieuse, plutôt qu'il ne priait, « Délivrez-nous du mal !» Ainsi soit-il.
bien que la paresse est en la mère de tous les vices, a plus de mal qu'une princesse et plus de soucis qu'une génisse.
Tous les regards étaient braqués sur le repaire de la paresse. Mais ce ne fut qu'après une très longue attente que notre impatience eut satisfaction. Un murmure admiratif accueillit son apparition. Devant nous s'étalait une immense étoile de mer dont les 7 branches d'un rose délicat ne mesuraient pas moins 1 mètre chacune. L'une d'elles se terminait par une main fine et potelée, à demi ouverte et qui semblait s'abandonner à la caresse de l'eau. Le cœur de l'étoile était une tête de femme jeune et fraîche qu'encadrait de longs cheveux flottants d'un blond doré. La bouche à peine entr'ouverte, les paupières presque closes sur ses longs yeux noirs, elle était renversée en arrière et semblait goûter l'approche du sommeil. Jamais péché ne se présenta sous un jour plus aimable. Après un moment de repos, les branches de l'étoile ondulèrent avec une souplesse languissante et la paresse s'avança lentement vers le milieu de l'arène. Et notre murmure d'admiration devint un murmure d'horreur. Autour de ce frais visage de femme et dans les remous de sa chevelure blonde, nous pouvions maintenant distinguer un grouillement de bêtes immondes, serpents, araignées, scorpions, asticots, nécrophores et autres vermines. Parfois, une tête de vipère s'échappait d'entre les boucles blondes et coulait sur la joue de la jeune femme. Nous n'avions rien vu jusqu'alors d'aussi repoussant. Le pasteur, que l'apparente séduction de la paresse avait d'abord alarmé, se tourna vers nous triomphant. « Regardez-la !» s'écria-t-il. « Ne vous lassez pas de la regarder. Et n'oubliez jamais que vous avez vu les vices les plus dégoûtants grouiller sur le molle oreiller de la paresse. »« Que de bruit !» soupira la paresse. « Que d'agitation ! Finissons-en !» Dès le départ, le combat s'avéra inégal. Pour atteindre son ennemi, le pasteur était obligé de se tenir constamment plié en deux. Le seul endroit où elle fut vraiment vulnérable était la tête, qui offrait peu de surface au coup de l'adversaire. La paresse se couvrait avec une habileté nonchalante et sans faire l'effort d'attaquer taquiner l'adversaire de la pointe de son épée, attendant qu'il vînt lui-même s'enferrer, ce qui ne pouvait manquer de se produire. Consciente du danger qui le menaçait, la plus jeune fille du pasteur eut l'idée de chanter une berceuse. « Do, l'enfant dormira bientôt. » Aux premières mesures, la paresse se mit à dodeliner du chef, ce qui causa de l'effervescence parmi la vermine. Puis ses paupières s'engourdirent, tandis que les branches de l'étoile se relevaient en forme de corolle et se fermaient sur la belle tête endormie. Le pasteur trancha les branches de l'étoile et après avoir décapité la dormeuse, extermina la vermine qui grouillait dans le sang.
Connaissez-vous Suzanne, la Suzanne de Giraudoux? Accepterait-elle de nous confier ses défauts? Pierre Dumayet va l'interviewer sous les traits de Germaine Montero.
Un jour, Suzanne, le facteur vous a remis une lettre d'Australie. Le timbre aussitôt vous fit rougir, n'est-ce pas?
Je rougis toujours quand on me parle d'un pays étranger.
Mais cette lettre, que vous apprenait-elle?
J'avais gagné le voyage autour du monde offert par le Sydney Daily à la première de son concours de la meilleure maxime sur l'ennui.
Et qu'aviez-vous écrit?
Si un homme s'ennuie, avais-je écrit à Sydney, excitez-le. Si une femme s'ennuie, retenez-la. En échange d'un conseil aussi utile pour elle, l'Australie m'appelait.
Ça valait bien, ça. Vous aviez quel âge, alors?
J'avais 18 ans.
Vous vous ennuyiez?
J'étais heureuse.
Vous habitiez avec vos parents?
J'habitais avec mon tuteur. Une maison tout en longueur.
À Bellac, je sais, oui. Comment était-ce, Bellac?
Janvier y était toujours froid, août toujours torride, Chaque voisin n'avait à la fois qu'une qualité ou qu'un vice.
Vous aviez des amis. Victoria était de votre âge, je crois.
Elle était née le même jour que moi. Notre vie depuis 18 ans était une sorte de petit match. Et chacune s'efforçait de le gagner en arrivant une seconde plus tôt à table ou 10 centimètres en avance au jardin.
Vous la battiez toujours ?
Je ne la battais qu'à la course.
Et Juliette Lartigue ?
Elle était plus vivante encore. Elle disposait d'une foule de réflexes, tous faux.
Par exemple ?
Ses yeux brillaient quand elle avait faim. L'eau lui venait à la bouche quand on achetait des parfums.
Et elle se fardait ?
Parfois, elle se fardait minutieusement. C'est que nous allions à l'étang nous baigner.
Ah oui. Elles ont dû être bien tristes, vos amis, de vous voir partir. Mais vous n'êtes pas partie seule.
Mademoiselle m'accompagnait.
Comment a-t-elle supporté le voyage ?
Une fois dépassée la chapelle Saint-Ursin, tout ce qu'elle voyait était nouveau.
Et à Paris, que fit mademoiselle à Paris ?
Elle acheta une poupée japonaise pour la rapporter au Japon. Pour la relâcher, sans doute, comme oui. Elle l'eût fait avec un oiseau.
Et puis ce fut Saint-Nazaire, puis le voyage, puis le Pacifique, puis le naufrage. Et enfin ce fut, mais pour vous seule, la Terre. Ce fut une île d'Océanie. Mais comment avez-vous su que c'était une île ?
Je ne sais quoi l'indiquait au toucher.
Et qu'y avait-il dans cette île ?
Il y avait de ci, de là, des oiseaux dont j'avais vu la photographie dans le journal des voyages.
Par exemple ?
Celui qu'on appelait l'oiseau muet, et qui se posait toujours sur la branche au-dessus de l'oiseau qui chantait, ouvrant le bec sans émettre un son.
Le malin. Et au bout d'un an, vous changeâtes d'île.
Il devait y avoir plus d'un an que j'étais naufragée, quand je pus enfin partir pour l'île d'en face.
On m'a dit qu'elle abritait quelques rats.
Oui, oui. Des rats qui, lorsque j'arrivais, bondirent à la mer, annonçant faussement que l'île allait sombrer.
Il paraît qu'elle portait cette île des traces de naufragés. Peut-on savoir lesquelles ?
Eh bien, un des singes donnait l'impression qu'il avait été battu. Un autre, d'avoir été humilié.
Et les antilopes ?
À certains de leurs mouvements, je croyais voir qu'elles avaient été caressées.
Et ce naufragé, selon vous, c'était un homme ou une femme ?
Pas une femme, sûrement.
Pourquoi ?
Écoutez, ici, où partout était la mer, il y avait une petite piscine en ciment, un tub. Ici, où la nuit s'égale au jour, où le soleil d'un jeu régulier avec l'équateur joue à la corde, il y avait des cadrans solaires sur chaque pierre plate et un vieux squelette de pendule en ressort à boudin.
Et ce naufragé était un homme, assurément. Et maintenant que des ethnologues britanniques vous ont découverte en Océanie, puis ramenée en France, est-ce qu'il vous reste quelque chose de cette île ?
Oui. Quand j'entends des pas, je retiens ce réflexe polynésien qui vous oblige, lorsqu'on n'entend des pas, à grimper au faîte des cèdres ou à plonger au fond des mers.
Et qu'avez-vous retrouvé en France ?
Ce français qui rend inutile l'arbre étreinte.
Dites, monsieur, oui. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'avais mis cette pomme sur la tête de mon fils.
Oui, oh, monsieur Guillaume Tell, il fallait bien que vous la posiez quelque part.
Oui, oui, mais vous avouerez que j'aurais pu choisir la tête d'un autre.
Oui, mais alors ?
Eh ben, mettez-vous à ma place, n'est-ce pas ? Il faisait chaud, vous savez. Il aurait fallu courir pour en trouver une qui veuille bien. Et puis, celle de mon fils était à portée de ma main, alors, vous savez.
Il doit quand même y avoir autre chose.
Eh ben, écoutez, si vous voulez, je vais réfléchir encore.
Je parle toujours la bouche pleine, pleine de gâteaux de madeleine. Je parle toujours la bouche pleine, pleine de gâteaux et de pastilles à la verveine. À la menthe, au citron, j'aime tous les bonbons. À l'orange, au pruno, j'aime tous les gâteaux. Je parle toujours la bouche pleine, pleine de gâteaux de madeleine. Je parle toujours la bouche pleine, pleine de gâteaux et de pastilles à la verveine. gourmandise. Je suis la gourmandise.
L'apparition de la gourmandise ne manqua pas de nous surprendre beaucoup. Nous attendions un monstre difforme et nous vîmes un bourgeois cossu, très bien mis et presque élégant, malgré l'ampleur de son ventre, ses membres un peu courts et son coude apoplectique. Vêtu d'un habit bien coupé, la fleur à la boutonnière et le haut de forme légèrement rejeté sur la nuque, il avait dans sa démarche pesante, dans les gestes de ses petites mains potelées, jusque dans le port de tête, une certaine préciosité qui restait décente. Quoique noyé dans la graisse qui lui mangeait les yeux et débordait par la cassure du col, les traits de son visage enluminé gardaient une surprenante finesse, particulièrement son nez court d'un dessin délicat et sa bouche puérile en forme de cœur. À mesure qu'elle se rapprochait de notre groupe, je saisissais mieux sa véritable physionomie. Sous son apparence de souriante bienveillance et malgré la délicatesse des traits, l'expression du visage était dure et rusée. Les petits yeux bridés par la graisse avaient un regard froid, étrangement lucide. À l'examen, la gourmandise ne semblait pas moins redoutable que les autres monstres. Lorsque s'engagea le duel, nous étions tous consumés du regret de ne pouvoir combattre, et les plus emportés participaient à l'action en encourageant le pasteur de la voix et du geste. « Vas-y, Toto, au buffet !» s'écria un matelot, « au buffet !» À ces mots, la gourmandise parut troublée, jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule, tandis que les spectateurs reprenaient en chœur « au buffet, Toto, au buffet !» « De quel buffet parlez-vous ? » demanda la gourmandise qui se tourna de notre côté en négligeant de se garder. « Il y a donc un buffet ?» La réponse lui fut donnée par l'épée du pasteur qui lui perça le flanc et sortit par le ventre. Lorsque son corps se fut vidé de sang, il apparut que son habit noir, son haute forme et ses escarpins avaient pris une teinte gris clair et que toute cette garde-robe était façonnée par la nature avec la substance même de la bête. C'est un phénomène curieux qui pourra intéresser les savants et amuser la jeunesse.
Monsieur Lasserre, vous qui êtes un grand restaurateur, que pensez-vous de l'homme lorsqu'il mange?
Monsieur Dumayet, je suis de l'avis d'un de mes regrettés clients, monsieur Paul Valéry, qui me disait « L'homme qui mange est le plus juste des hommes, il nourrit à la fois ses vertus et ses vices. »
Et pensez-vous qu'il y ait une certaine ressemblance entre l'homme et ce qu'il mange?
Non, je ne crois pas. Si monsieur André de Fouquier aime la poularde Grand Palais, si Maurice de Cobra aime le homard à l'américaine, si Jean Marais aime les profiteroles au chocolat, si la princesse de Monaco aime le Chateaubriand, si Lady Diana Cooper aime le canard à l'orange, si Daniel Darieux aime les grenouilles à sa façon d'ailleurs, si Cécile Sorel aime la bécasse flambée, si Arletty aime l'escalope à la maréchale, si Monsieur Gervais préfère le camembert au petit suisse, c'est certainement par hasard. Et si même Lisette d'Arsonval aime le vol-au-vent, ce qui est vrai d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit parce qu'elle est danseuse.
Bon, je vois, la gourmandise est aveugle par conséquent. Puis-je vous demander ce qui se met au service de la gourmandise?
Tout. En dehors du chef, du maître d'hôtel, tout. La langue française, la surprise.
La langue française?
Nous appelons un délice un filet, par exemple. Chateaubriand, une pièce de bœuf. Demoiselle de Cherbourg, un homard.
Mais la surprise, comment se met-elle au service de la gourmandise?
Mais monsieur Dumayet, il faut que le client s'amuse en mangeant. Il faut que le client soit amusé par ce qu'il mange, qu'il soit surpris, comme au théâtre. Au théâtre, il attend l'amant. C'est le mari qui arrive. Au restaurant, on attend l'omelette. Et en mangeant l'omelette, on s'aperçoit que c'est une glace.
Ça s'appelle une omelette surprise.
C'était une souris qui venait d'Angleterre. Yes, madame, yes, my dear. Elle s'était embarquée au port de Manchester sans même savoir où s'en allait le navire. Non, madame, non, my dear. Elle avait la dent longue comme une vieille anglaise, s'enroulait dans un plaid à la mode écossaise et portait une coiffe dentelle irlandaise. Dans le port de Calais, elle mit pied à terre. Yes, madame. Yes, my dear. Elle s'en s'enfuit bien vite à l'hôtel d'Angleterre et grimpe à l'escalier tout droit sans rien leur dire. Non, madame, non, my dear. Le grenier de l'hôtel lui fut un vrai palace. La souris britannique avait là tout sur place. Du whisky, du bacon, du gin, de la mélance. Chaque soir, notre miss faisait la ribouldingue. Yes, madame. Yes, my dear. C'était toute la nuit, des gigues, des bastringues. Les bourgeois de Calais ne pouvaient plus dormir. Non, madame, non, my dear. En vain l'on remplaçait la pâte des souricières, le Suisse par le Hollande, le Brie par le Gruyère. Rien n'y fit. Lorsqu'un soir on y mit du Chester. C'était une souris qui venait d'Angleterre. Yes, madame. Yes, my dear.
La luxure nous apparut sous l'aspect d'un vieillard nu, décharné, et coiffé d'un melon beige. Les yeux noirs, luisant au fond de leurs orbites, avaient un regard intérieur, et son visage maigre semblait tendu par l'anxiété. Emmanché dans l'oreille droite, le vieillard portait une espèce de manivelle dont la raison d'être nous sembla d'abord un mystère. La région du bas-ventre était protégée par une cage osseuse faite d'épais barreaux noirs entrecroisés. Des attributs qui s'y trouvaient enfermés, il n'était pas possible de distinguer s'ils étaient mâles ou femelles, ni même s'ils existaient réellement. Le haut de la cage était relié au bord du chapeau melon par des espèces de filins, au nombre de trois, que leur couleur rouge signala à notre attention. Après avoir fait quelques pas hors de son antre, le vieillard s'arrêta et, portant la main à la manivelle plantée dans son oreille, s'employa non sans effort à la mettre en mouvement. Elle tournait avec un grincement de mécanique rouillée. Dès le premier tour, de petites figurines vivantes de la grandeur d'une main se pressèrent au bord du chapeau melon. Il y en eut d'abord trois. Une femme nue, une autre en tenue de ville et la troisième en pyjama. Se laissant glisser le long des filins, elles descendirent jusqu'à la cage aux attributs où elles disparurent à nos regards. D'autres figurines les suivirent, créatures de tous âges, en toute tenue et en pièces détachées. Des cuisses, des croupes, des poitrines et des sexes de l'un et l'autre signe. Le défilé dura un très long temps, après lequel, abandonnant sa manivelle, la luxure, épuisée, se recueillit un moment. Enfin, elle releva la tête, parcourut des yeux notre groupe, et comme elle donnait encore un tour de manivelle, le pauvre pasteur eut la douleur de se voir lui-même descendre la tête en bas le long du filin, et rattrapant sa propre épouse, lui mordre les fesses à l'instant où elle entrait dans la cage à sexe. Aussi fut-ce avec un furieux emportement qu'il entama le combat, sans toutefois y faire preuve de plus d'adresse qu'au cours des précédents. La partialité divine avait beau nous paraître évidente, nous avions des craintes. Toute sénile et maigrelette qu'elle parut, la luxure menait la danse avec beaucoup d'entrain et de sang-froid. Contraint à faire un saut de côté assez ridicule, le pasteur découvrit le cadavre de la paresse qui se trouvait derrière lui. En apercevant la tête de la jeune femme fraîchement coupée, la luxure fit entendre une sorte d'aboiement et lâcha l'épée pour la manivelle. Une effigie de la tête coupée, réduite aux proportions d'une orange, glissa le long du filin, mais n'eut pas le temps d'arriver jusqu'à la cage. Le pasteur venait d'exterminer son adversaire.
Sur la dure, la luxure, la luxure. il y a place partout pour la gravelure. La luxure, c'est la terreur des jeunes filles pures. C'est la terreur, parce que ça défigure.
Pour découvrir une définition de la luxure, nous avons fait appel à Juliette Gréco. Pourquoi Juliette Gréco?
Ah ça, je n'en sais rien, pour la bonne raison qu'il y a des quantités de gens qui vont se trouver très surpris de voir la luxure personnifiée par moi.
Parce... Non, pas personnifiée, définie par
enfin,
vous.
Définie,
pas la même
oui,
chose.
Pas la même
vous
chose,
avez une définition personnelle à donner?
J'ai une définition personnelle, bien entendu, je ne la donnerai pas, parce que ça ne regarde que moi.
Bon,
je pense que chacun a une définition à donner. Et qui est chaque fois différente. Enfin, il y en a qui aiment les chiens, d'autres les chevaux, d'autres les bicyclettes, d'autres les bottes.
On peut faire de la bicyclette sans être luxurieux.
Oui.
Quoi encore pour la luxure?
Ah, oh, mais des quantités de choses, et autant de choses que de gens, et que de gens qui vivent, et que de gens qui aiment vivre.
Bon, est-ce que vous aimez retrouver la luxure dans la littérature?
Bah, dans la littérature, on la trouve sous des aspects tellement différents. En tout cas, il y en a un qui réunit tout, je crois. C'est Sade. Il y en a un autre.
C'est Larousse.
C'est Larousse, oui. Oui, oui, si vous voulez. Il y en a un autre qui s'appelle Pierre-Louis et un autre qui s'appelle Jean Genet. Voilà trois exemples.
Est-ce qu'il y a des compositeurs de musique? Est-ce qu'il y a des compositeurs de chansons qui sont luxurieux, à votre avis?
Eh bien, je pense que si Queneau avait vécu à la fin du XVIIIe, il aurait écrit la même chose qu'il a écrite maintenant. C'est-à-dire Fillette, qui vraiment ouvre les portes à des quantités de choses.
C'est une chanson que vous connaissez bien.
Pour la bonne raison que je la chante. Je vous ai apporté mon disque qui a la valeur d'être mon premier disque.
Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines que ça va, va durer toujours la saison, des à la saison, des à saison, des amours, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, ce que tu te gourres, les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournoise s'approche l'aride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. La.
L'avarice était une énorme marmite, surmontée d'une tête d'oiseau de proie, aux yeux vifs et méchants, aux oreilles mobiles, vastes comme des plats à gigots. Ses trois paires de bras se terminaient par des mains longues et fines, aux doigts nerveux, sans cesse en mouvement. Ses courtes pattes, au nombre de quatre, étaient munies de pieds préhensifs. Tout en elle révélait la cruauté, la méfiance, qui vont de pair chez les avares. Son regard haineux, implacable, les contractions fébriles de ses mains et de ses doigts de pieds griffus, trahissaient une impatience méchante. Outre les oreilles démesurées dont il a déjà été parlé, l'avarice en possédait une autre paire d'un format plus réduit, disposée de chaque côté de la marmite à la place des anses. Enfin, elle était dotée d'un œil au bas du ventre et d'un autre dans le dos. Le combat venait à peine de commencer lorsque l'avarice tourna bride subitement. Son œil lombaire avait aperçu le veau d'or gisant sur le sol. Elle y courut au galop de ses quatre pieds de marmite et, s'asseyant sur le ventre de l'idole qu'elle étreignait de ses trois paires de bras, se mit à la couver avec des vagissements de bonheur. L'ivresse de l'or la rendait aveugle au danger. Le pasteur la rejoignit sans qu'elle eût seulement conscience de son approche et, d'un coup de pointe, lui creva la marmite. Comme l'olulaire, elle était pleine de pièces d'or qui s'écoulèrent sur le veau.
Grande fortune, croyez-moi mon cher, les petits bouts de chandelle font les grandes fortunes. Quand j'achète un chat, c'est toujours la nuit, car comme ils sont gris, je les paie moins cher. Croyez-moi mon cher, la vie est si belle pour celui qui sait conserver ses thunes. Les petits bouts de chandelle font les grandes fortunes. Croyez-moi, mon cher, les petits bouts de chandelle. Croyez-moi, mon cher, les petits bouts de chandelle font les grandes fortunes.
Dites-moi, monsieur Guillaume Tell, pourquoi avez-vous posé cette pomme sur la tête de votre fils?
Bien, écoutez, il fallait bien la poser quelque part.
Mais ne pouviez-vous pas la poser ailleurs?
Eh bien, si, j'aurais pu choisir, par exemple, une autre tête. Mais mettez-vous à sa place, il aurait fallu que je la paye, n'est-ce pas?
Oh, vous auriez pu demander à Maurice Fombeur, il aurait fait ça pour rien.
Qui c'est, Maurice Fombeur?
C'est un poète qui raconte aussi des histoires, dans le genre de la vôtre, mais des histoires vécues.
Elles sont sorties du même tonneau que Manet Coinché, elles sont toutes authentiques. La première est assez funèbre, il s'agit d'une mise en bière à Montmorillon, d'un vieil homme qui avait passé les 80 ans. Le menuisier était surnommé Culotte, et il était accompagné de Jules, son acolyte. On met le mort en bière, on le visse, on boit un verre de vin blanc. Ensuite, on rouvre la bière parce que la veuve veut que l'on mette un coussin sous les pieds du mort. On referme la bière, on boit un coup de vin blanc. Ensuite, la veuve demande à Culotte et à Jules, bien entendu, de rouvrir la bière parce qu'elle voulait lui faire emporter son chapeau neuf. Là-bas, on dit son chapiot neuf. On boit un coup, Culotte redévisse la bière, met le chapeau, revisse la bière. Et lorsque la bière a été revissée, il reboit un coup de vin blanc, il va prendre congé de la pauvre veuve et il dit « Ok, mon chapeau », c'est-à-dire « Où est mon chapeau ?» Il avait mis le sien dans la bière. On la rouvre, on revisse à nouveau et le tout accompagné de coups de vin blanc. Voici une enseigne d'un cordonnier de Coulanges-lès-Hérolles dans mon pays. Pour avertir la clientèle, enfin de ses fantaisies ou de ses heures de travail. À partir de ce jour en date, je ne travaillerai à Coulanges que le lundi, mardi, mercredi, si possible, avec jours assurés les jeudis, vendredis, samedis. Les personnes soucieuses de leur travail seront assurées de bonne complaisance de sa part au jour de leurs besoins, dans les 8 jours précis. Voici encore des appréciations d'une dame de chez moi, Madame Massé, qui disait à son mari qu'elle trouvait un peu dur pour elle et qui prétendait qu'elle était usée. C'est assez dur d'entendre ça pour une femme. Si tu continues comme ça, je ferai comme ces femmes qu'on parle dans les journaux. Je me trancherai la gorge avec un couperet. Et elle lui disait aussi, « T'as une tenue débraillée, t'as une tenue qui n'est pas hygiénique. Et encore, tu me fais monter à l'échelle jusqu'au point terminus. »
L'avarice, la luxure, la gourmandise, la paresse, l'envie, l'orgueil, il ne reste plus qu'un péché capital, qui, celui-là, est presque une vertu, puisqu'on dit qu'il est de sainte colère.
La colère nous surprit d'abord par le calme de son attitude et de sa démarche. Elle offrait à peu près l'aspect d'un homme des cavernes, puissant et ramassé, aux bras et aux mollets énormes. Son corps était couvert d'une toison aux poils plus rudes que l'écrin d'un balai. Pour la tête, d'un volume considérable, elle tenait du bulldog par le faciès et de l'homme par l'ampleur du front et la carnation. La colère marchait à pas lents, la tête basse et l'air absent. Je crois qu'elle était toute à la pensée des injustices et des offenses qui devaient bouillonner derrière son grand front méditatif. Son pas devenait de plus en plus lent. Soudain, elle s'immobilisa comme frappée d'une évidence aveuglante. Ses poils se dressaient sur son corps et sur sa tête comme les piquants d'un hérisson. Son visage devint bleu, ses babines se relevèrent et ses yeux, exorbités, s'injectèrent de sang. Trépignant et levant les poings vers le ciel, elle explosa d'une voix rauque au débit précipité. « Nom de Dieu, de nom de Dieu, je veux savoir, mais enfin pourquoi, je veux savoir pourquoi, nom de Dieu, je n'avais pas que, j'ai le droit de... » Sa face bleue virait au noir. La fureur l'étranglait littéralement. Elle porta la main à son cou et resta un moment, haletante, à reprendre vie et conscience. Sa toison de porc épi s'affaissa peu à peu. Sa gueule crispée se détendit. La voyant calmée, le diable lui mit l'épée à la main et lui expliqua qu'elle devait se mesurer avec l'envoyé de Dieu. La colère regarda vaguement les cadavres gisant au sol et n'objecta rien. Elle engagea le combat distraitement, se contentant de parer les coups peu dangereux que s'efforçait de lui porter le pasteur, mais son front se plissait sous l'effort de la réflexion. Et tout aussi soudainement que la première fois, elle se hérissa, devint bleue, roula des yeux sanglants et se prit à gueuler. « Nom de Dieu, de nom de Dieu, je veux savoir, pourquoi moi? Pourquoi ma vie devrait-elle racheter ses armes? Ce n'est pas juste, je veux savoir, nom de Dieu, je saurai, je saurai !» De nouveau, la colère s'étrangla et porta les mains à son cou. Quoiqu'elle fût hors d'état de se défendre, le pasteur ne se fit pas scrupule de lui pousser son épée dans les tripes, car il combattait pour la bonne cause. On lui fit une très belle ovation.
La colère est une étrangère qui supplante en nous la raison. C'est la folle passagère d'un navire en perdition. La colère est une étrangère, c'est la sœur des faux frères. La colère, c'est une étrangère, c'est le vase qu'on brise, c'est la guerre qu'on déclare, c'est l'incendie d'une église, c'est un crime qu'on prépare, c'est le regard d'un fou à qui on tord le cou. La colère est une étrangère qui supplante en nous la raison. C'est la folle passagère d'un navire en perdition. La colère est une étrangère, c'est la sœur des faux frères. La colère, c'est une étrangère.
Ne dites pas de mal de la colère. Elle porte quelquefois ses fruits. Le théâtre a besoin d'elle. Raymond Hermantier nous le prouve quotidiennement dans sa vie.
Pourquoi dis-tu ce texte, le regard vide de toute passion, d'une voix molle, avec des attitudes de conquistador de Perrette? Il ne s'agit pas de mettre en valeur un mot, mais le sentiment que dénote un groupe de mots. Abandonne-toi sans comprendre à ton personnage.
C'est facile à dire quand on répète depuis 10 jours. 20 heures sur 24, quand on passe ses jours à subir tes colères. Mais tu n'as ni cœur ni œil. Tu ne vois pas que nous sommes tous exténués? C'est plus du théâtre, c'est un véritable bagne. Recommencez, c'est pas ça, vous êtes mauvais. Et si demain c'est une catastrophe, ce sera de ta faute!
Ma faute! Et vous ne comprenez donc pas que je fais tout pour mener cette entreprise au succès, que je lutte contre la force d'inertie qui nous entoure? Nous devons créer ici un immense mouvement de théâtre populaire. Il faut nous adapter, il faut adapter notre travail au goût du public. Cette force impitoyable formée par le cinéma, cette foule qui veut du neuf, toujours du neuf. Il nous faut oser beaucoup pour le satisfaire. Et si je vous mène impitoyablement, c'est pour essayer d'obtenir un tout petit peu de vérité dramatique, vous comprenez?
Allez, assez discuté, j'ai encore 40 projecteurs à placer. Moi, il est minuit, la répétition n'est pas finie, j'ai pas envie de me coucher à 5 heures. Alors, où veux-tu que je mette le projecteur de la statue de Pompée?
Pompée, parlons-en de votre statue de Pompée. Quand je pense que ce tas de cartons a coûté 160 000 francs, oui monsieur, 160 000 francs, et qu'il a fallu l'amener de Paris en camion encore. Mon ami Poncet, qui est dans le cartonnage à Tarascon, il vous aurait fait le même pour 5 000 francs. Oui monsieur, pour 5 000 francs, et sur place. Il est horrible votre Pompée. D'ailleurs, tout est horrible dans ce spectacle. Bon, enfin, voyons, les Romains n'ont jamais été habillés comme ça. Eh bien, ça va être beau, ce César. Et moi qui ai mis de l'argent là-dedans. Et la musique, la musique. Pauvre monsieur Shakespeare, il a bien besoin de cette musiquette. Et quand je pense que vous jouez sans décor, en 1902, monsieur, nous avons monté Sémiramis, ici. Il y avait des colonnes en carton, et on avait caché les arènes avec des toiles peintes représentant des montagnes. Oui, monsieur, des montagnes. Et quand les acteurs récitaient, monsieur, on les entendait jusqu'en Avignon. Jusqu'en Avignon, ben oui, monsieur. Et nous ne sommes pas contents, non? Non, pas contents du tout. Nous avons payé avec notre argent, avec notre propre argent, monsieur. Et samedi, au lieu de César, on jouera la belle de Cadix.
Mais foutez-moi le camp! Vous avez compris, foutez-moi le camp! On aurait dû vous décapiter en 1902 pour avoir commis ce sacrilège. On devrait vous fusiller aujourd'hui pour oser jouer dans ces arènes de misérables opérettes et vous abattre comme un chien pour venir nous décourager quelques heures avant le spectacle. Quant à la statue de Pompée et les costumes, vous les avez vus, vous, les Romains? Ben moi, oui, je les ai vus!
Il est complètement fou, mais complètement!
Vous ne comprenez pas que nous n'avons qu'un seul but? Notre métier, ça vous dépasse, hein? Notre vie est un combat. Il faut lutter pour imposer notre vérité que beaucoup méprisent. Souffrir. Nous avons soif de la souffrance nécessaire à toute création. Hurler à la face des étoiles. Notre foi en notre métier. Détruire les parasites qui l'exploitent bassement. Prouver que l'argent, cet argent destructeur qui mène le monde et avilit l'âme est inutile pour accomplir de grandes choses. Et qu'il faut payer par beaucoup de sa vie si on veut obtenir un peu de joie. Demain nous serons jugés, acquittés ou condamnés. Ceux qui ne connaissent pas la grandeur de l'action se frottent déjà les mains devant ce qu'ils jugent comme un échec. À tous ces inutiles, ces incapables, ces lézards, ces nains, ces faces de derrière, ces marchands de salade, ces insexués, ces bornés, ces 5 à 7, ces réformés du sommier, ces littérateurs de milquebar, ces pin-up boys de plage, ces condamnés pour incapacité, ces croque-morts du succès, ces engraissés de la misère d'autrui, ces décorés sans héroïsme, ces rases mimi, ces buveurs de thé, à tout le peuple de cette poubelle qu'est le grand monde actuel, je crie, faites-en autant! Dieu vous condamne, car vous n'êtes que des lâches. Vous bavez comme des limaces, vous rampez comme des serpents. Vous mettez les bâtisseurs sur un piédestal et vous les traînez dans la boue 48 heures après. Nous vous méprisons et nous vous disons
merde. Allons, qu'est-ce que vous gagnez à vous mettre dans des états pareils? Le jour de la représentation, si vous continuez, vous ne pourrez plus parler, vous serez tous claqués. Le public s'en fiche de vos bagarres. On ne va pas lui donner une notice explicative sur vos humeurs, non? Allez, reprenons la répétition.
Monsieur Guillaume Tell, j'aimerais vous poser une question.
Oui?
Pourquoi avez-vous mis cette pomme sur la tête de votre fils?
Il fallait bien la poser quelque part.
Et vous ne pouviez pas la poser
mais
ailleurs?
Si, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'aurais posée sur n'importe quoi, cette pomme. Il fallait que je tire dedans. Ah, c'est terrible, la colère, vous savez. Parce qu'enfin, tout de même, qu'est-ce que je lui avais fait à cette pomme?
C'est nous, les péchés capitaux. C'est nous, mais pour mettre le monde en fête, nous mettons toujours à 7, les princes des défauts. C'est nous, les péchés capitaux. C'est nous, les pères de tous les vices, et tous les vices sont nos fils. C'est nous, les princes des défauts et des péchés capitaux. C'est nous les péchés capitaux.
Jacques Florent et Henri Soubéran vous ont présenté « Pour l'amour de l'art », avec la collaboration de Pierre Dumayet, Étienne Laloux et Jean Chouquet. Cette première émission consacrée aux péchés capitaux vous a été donnée avec le concours de Roland Dubillard, Pierre Sabag, Marcel Jouandeau, Germaine Montero, Juliette Gréco, Leïla Bensedira, Maurice Fombeur et Raymond Hermantier. Les extraits de La fosse aux péchés de Marcel Aimé étaient dits par Marcel Errant, les commentaires lus par Pierre Leproux. Les chansons interprétées par Micheline Dax et Jeannine de Valène étaient de Raymond Gallois-Montbrun pour la musique et de Pierre Dumayet pour les paroles. Production et réalisation Jacques Florent et Henri Soubéran.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 février 1951 sur la chaîne nationale.
Thank you for pretending that you can see me in the dark as if I was making sense. And what I meant is what you really heard. 'Cause baby, 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 I'll be what I wanna be. Crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies set me free. Lies keep me from my fear. Lies believe in me. Lies heavenly shelter. Thank you for pretending that I don't cry and I don't care. That my heart is made of clay, and I will keep sailing away. 'Cause baby, 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 I'll be what I wanna be. Crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies set me free. Lies keep me from my fear. Lies believe in me. Lies heavenly shelter. Thank you for pretending that I got some skin around my bones. Thank you for pretending that I'll never, ever, ever let you go. Heavenly shelter. La la la.